Laudetur Jesus Christus.
Inquiétude en Côte d'Ivoire pour l'élection présidentielle d'aujourd'hui. L'opposition appelle à la désobéissance civile. Des heurts ont déjà éclaté hier dans plusieurs villes du pays. Les appels au calme se sont multipliés à la veille du scrutin. L'élection présidentielle américaine, cette fois marquée par la pandémie de Covid-19, pandémie qui a poussé de nombreuses personnes dans la pauvreté. Reportage en Floride, où de jeunes volontaires chrétiens distribuent des aliments aux plus pauvres. Séisme d'une magnitude de 7 sur l'échelle de Richter hier en mer Égée, une vingtaine de morts selon un dernier bilan. Les équipes de secours poursuivent ce matin leur travail dans les décombres pour retrouver d'éventuels survivants. Une Toussaint particulière cette année en Europe, en France, où les mesures de sécurité à cause de la pandémie et du terrorisme se sont renforcées dans les églises et les cimetières, mais aussi en Belgique, où les évêques ont écrit aux fidèles cette semaine. Nous entendrons l'évêque auxiliaire de Bruxelles, Mgr Jean Cockerels. Il nous adressera un message d'espérance. C'est dans notre dossier à suivre à la fin de ce journal.
Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
Bonjour. Les Ivoiriens aux urnes donc aujourd'hui pour l'élection présidentielle. Le président sortant, Alassane Ouattara, 78 ans, se représente pour un troisième mandat controversé. L'atmosphère dans les grandes villes du pays est tendue et l'on redoute une escalade des violences. Des incidents ont déjà éclaté hier à Adélaïde Patrignani, alors que les appels au calme, eux, se sont multipliés.
Oui, Xavier, hier, les troubles se sont produits à Yamoussoukro, la capitale politique, et à Bonoua, à l'est, le fief de l'opposition. Les forces de l'ordre se sont interposées entre plusieurs centaines de jeunes de différentes ethnies. Depuis fin août, la Côte d'Ivoire est agitée par des violences entre partisans des camps rivaux qui ont fait une trentaine de morts. La crainte d'une escalade est d'autant plus forte qu'il y a 10 ans, la crise post-électorale avait fait 3000 morts. Des souvenirs encore vifs qui ont poussé hier plusieurs habitants d'Abidjan à prendre la fuite. Souvent, ils ont choisi de se réfugier dans leur village natal dans l'espoir d'y être en sécurité. Et pendant ce temps-là, l'ONU et l'UE ont appelé à ce que la présidentielle se déroule de manière pacifique. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, demande aux leaders politiques de s'abstenir de toute incitation à la violence, de toute désinformation ou discours de haine. Il encourage les autorités, les forces de sécurité à protéger et faire respecter les droits de l'homme et à recourir au dialogue. Le représentant de l'Union européenne, Josep Borrell, a également exprimé sa grande inquiétude face aux violences et aux discours de haine. Enfin, l'Alliance des religions en faveur de la paix, qui réunit les représentants de plusieurs cultes musulmans et chrétiens en Côte d'Ivoire, a fait une déclaration hier après-midi. Elle aussi appelle au calme et exhorte les Ivoiriens à préserver la paix.
Adélaïde Patrignani. Tension également en Guinée, plus de 10 jours après la présidentielle du 18 octobre. Hier, 10 candidats de l'opposition ont appelé leurs partisans à reprendre les manifestations mardi prochain. Ils rejettent toujours les résultats du scrutin qui ont donné Alpha Condé vainqueur. Lors des dernières protestations, ces jours derniers, des heurts avaient éclaté entre partisans des deux camps et les forces de l'ordre, provoquant la mort d'une vingtaine de personnes. La campagne présidentielle américaine. Hier, les deux principaux candidats ont sillonné le Midwest, traditionnellement acquis aux républicains. Aujourd'hui, le démocrate Joe Biden se rend dans le Michigan, tandis que Donald Trump sera en Pennsylvanie. Deux états cruciaux pour le scrutin de mardi. Autre état incontournable, la Floride, où la crise liée au coronavirus a plongé de nombreuses personnes dans la pauvreté. Ces personnes ne parviennent plus à se nourrir correctement. Alors, pour leur venir en aide, de jeunes chrétiens volontaires de l'église Vous Church organise depuis plusieurs mois une distribution alimentaire à Opa-locka, une ville pauvre de la banlieue de Miami, à majorité hispanique et afro-américaine. Reportage sur place d'Anaïs Renevier.
L'opération dure à peine quelques secondes. Déposer un colis alimentaire dans un coffre, puis passer à la voiture suivante. Les bénévoles de l'église font vite. La ligne s'étend sur plusieurs kilomètres.
Au début, on avait environ une centaine de voitures. On n'a jamais trop fait de pub. Mais ça a pris une telle ampleur que parfois, on doit refuser des gens parce qu'on n'a pas assez de nourriture.
Souvent, les bénéficiaires confient la même histoire, celle d'un chômage qui dure depuis l'épidémie de coronavirus. Tony travaillait dans un magasin de téléphonie.
Il y a eu le début du coronavirus, puis d'un coup ils ont fermé les boutiques et on ne pouvait plus sortir. J'ai cherché du travail en ligne, il n'y a pas de travail.
Valérie vient ici deux fois par semaine pour prêter main forte. Cette longue attente au volant de sa voiture pour recevoir un peu de nourriture, elle connaît bien.
J'étais toujours la première dans cette queue pour recevoir de la nourriture, ça m'a beaucoup aidée. Alors après avoir reçu, je suis devenue bénévole pour rendre l'appareil. Si on garde la tête haute et qu'on prie Dieu, qu'on fait la même chose, il nous aidera à traverser cette épreuve.
Les bénévoles ne s'attendent pas à ce que la situation s'arrange. D'ici la fin de l'année, 54 millions d'Américains pourraient connaître l'insécurité alimentaire. Anaïs Renevier, à Opa-locka, Floride, pour Radio Vatican.
Le Parlement bolivien a approuvé hier le rapport parlementaire sur les massacres de Sencata, Sacaba et Yapacani, rapport qui recommande de juger pour génocide et autres délits Jeannine Agnès, l'ancienne présidente par intérim, ainsi que 11 ministres. Poursuite des opérations de secours ce matin dans l'ouest de la Turquie après le séisme qui a causé hier la mort d'au moins 26 personnes et fait plus de 800 blessés. La secousse qui a concerné également la Grèce, toute proche, a été de 7 sur l'échelle de Richter. Elle s'est produite donc en mer Égée, provoquant un mini tsunami sur l'île grecque de Samos. Les précisions à Istanbul d'un Andlauer.
C'est une secousse particulièrement violente, comme l'ouest de la Turquie n'en avait pas ressenti depuis des décennies, qui a fait trembler pendant 15 secondes toute la province d'Izmir à 14h51 heure locale. Les images de bâtiments de plusieurs étages effondrés ou en train de s'effondrer, de nuages de poussière s'élevant dans le ciel et d'habitants paniqués se précipitant dans les rues, sont très vite apparues sur les écrans de télévision et les réseaux sociaux. Les régions de Bornale et de Bayraklı sont les plus touchées. Selon le préfet d'Izmir, 4 immeubles se sont totalement effondrés dans la province. Mais les recherches de survivants concernent en tout une douzaine d'immeubles. La télévision turque a montré des images de blessés sortant des décombres et d'habitants leur venant en aide, en attendant l'arrivée des secours qui ont parfois été retardés par les énormes embouteillages qui ont suivi la secousse. Les secours se poursuivent sous la menace des répliques, nombreuses, qui ont atteint jusqu'à 4,8 de magnitude. Les autorités appellent les habitants de ces régions à ne surtout pas retourner chez eux. La secousse a aussi provoqué des inondations dans les rues de Seferihisar, un autre district d'Izmir situé sur la côte égéenne. L'une des victimes du séisme est d'ailleurs morte noyée. À Istanbul, un loi pour Radio Vatican.
Le premier ministre arménien Nikol Pachinian a formellement demandé au président russe Vladimir Poutine une aide, et ce pour assurer la sécurité de son pays en conflit avec l'Azerbaïdjan sur le Nagorno-Karabakh. C'est ce qu'a annoncé ce matin le ministre arménien des Affaires étrangères, alors qu'aucune perspective de trêve ne se profile. C'est un week-end de la Toussaint inédit que s'apprêtent à vivre les catholiques français. Non seulement les mesures sanitaires pour lutter contre le coronavirus ont été renforcées, mais la menace terroriste a conduit le gouvernement à prendre de nouvelles dispositions. La fête de la Toussaint va pouvoir être célébrée dans les églises, mais sous surveillance policière accrue. Et à partir de lundi, les messes ne seront plus autorisées, sauf les mariages et les enterrements. Quant aux visites au cimetière, une tolérance est accordée. Les précisions d'Anthony Torzek.
Une bonne nouvelle, les Français pourront fleurir les tombes de leurs proches en ce week-end de la Toussaint. C'est ce qu'a indiqué Jean Castex, le Premier ministre, avant-hier. Et comme pour les retours de vacances, aucune restriction géographique ne sera appliquée pour les visites au cimetière. Une attestation sera néanmoins nécessaire en cochant « motif familial impérieux ». Les messes pourront également être célébrées, mais à partir de lundi, fini ces tolérances. Les églises resteront ouvertes, mais les cérémonies seront interdites. Une exception sera faite pour les enterrements dans la limite de 30 personnes et pour les mariages, maximum 6 personnes seulement. Et comme si ces mesures sanitaires ne suffisaient pas, la fête de la Toussaint sera marquée également par un renforcement de la sécurité autour des lieux de culte. Le Premier ministre a annoncé que le plan Vigipirate était porté au niveau urgence attentat, soit le niveau le plus élevé. Une vigilance accrue sera portée aux lieux de culte et aux églises en particulier, mais avec les moyens humains existants, car c'est seulement à partir de lundi que 3500 gendarmes réservistes et 3500 policiers et gendarmes mobiles vont être appelés et mise à disposition des préfets. À Nantes, Anthony Torzek pour Radio Vatican.
Et à cause de la pandémie, l'assemblée plénière des évêques de France se déroulera comme au printemps par visioconférence. La rencontre prévue la semaine prochaine à Lourdes a donc été annulée. Le programme a en conséquence aussi été modifié. Pays d'Europe le plus durement touché par la pandémie de Covid-19, la Belgique a décidé hier soir un confinement plus sévère pendant 6 semaines. Le gouvernement parle de mesures de la dernière chance. À partir de lundi, les commerces non essentiels seront fermés. Le télétravail promu là où c'est possible. Autre mesure, la limitation des invitations au domicile à une seule personne et une nouvelle prolongation de 3 jours des vacances scolaires jusqu'au 15 novembre inclus. En extérieur, il sera possible de se déplacer à 4 en respectant les gestes barrières. On reste en Belgique pour notre dossier. La Belgique qui s'apprête à célébrer la Toussaint dans une ambiance plus que morose à cause de la pandémie de Covid, on vient de le voir. Dans ce contexte, il y a quelques jours, les évêques belges ont écrit une lettre aux fidèles pour leur rappeler l'importance du respect des mesures de protection, mais surtout pour les soutenir dans cette période difficile. Nous commémorons nos défunts bien-aimés avec une photo, une bougie, une fleur ou une prière, soulignent les évêques, alors que de nombreuses églises resteront fermées aux célébrations. L'Église belge invite aussi les croyants à faire preuve de solidarité envers les plus vulnérables en ces temps d'épreuve. Monseigneur Jean Coquerolles, évêque auxiliaire de Malines-Bruxelles, revient sur le sens de cette lettre aux fidèles et invite à vivre cette Toussaint en cultivant l'espérance.
Nous avons surtout voulu donner un message d'encouragement à l'égard de tous les membres de nos communautés paroissiales, surtout de combattre ce désarroi et cette grande difficulté à voir clair dans tout ce qui se passe et à tenir bon. Donc c'est surtout un message d'encouragement et puis en faisant quelques suggestions pour qu'on reste solidaires, qu'on reste proches les uns des autres dans cette situation.
Vous évoquez, chez les chrétiens, vous demandez une certaine part de créativité et de souplesse. Qu'est-ce que vous entendez par là ?
Dans la mesure où le culte public suspendu, en tout cas à Bruxelles, et risque de l'être dans les autres parties du pays, mais en tout cas à Bruxelles, où je suis, il n'y a plus l'autorisation de célébrer les messes. Eh bien, il s'agit d'être créatif pour que d'abord nos églises restent ouvertes, visitables pour ceux qui souhaitent s'y recueillir et prier, mais aussi s'ils soient accueillis et puis soient accueillis dans le contexte de la Toussaint et surtout de la commémoration des défunts. Pour donner un exemple, il y a 7 églises à Bruxelles dans lesquelles nous avons placé des grands bacs avec du sable et de la terre et puis les gens qui le souhaitent pourront choisir un bulbe de fleurs et planter cette fleur qui fleurira en principe à Pâques comme signe d'espérance et de confiance dans la vie qui est appelée à renaître.
Vous invitez aussi les fidèles à se montrer solidaires envers les plus vulnérables, solidaires également envers le corps médical qui, on le sait, est en première ligne, n'a pas été épargné par cette crise. C'était important aussi d'appeler à cette solidarité-là.
Oui, parce que ce sont ceux qui sont en première ligne et qui vivent des situations parfois dramatiques. Il s'agit de les encourager. Ceux qui ont des médecins, des infirmiers, infirmières dans leur famille le savent très bien. Et donc, ces gens doivent être soutenus. Ce n'est pas facile dans les faits d'accéder aux hôpitaux. De toute façon, ce sont devenus des forteresses pour le bien de tous. Mais il s'agit en tout cas de dire vous êtes en première ligne et nous sommes avec vous de tout cœur et nous prions pour vous.
Quel sens spirituel va avoir cette année, cette fête de la Toussaint dans ce contexte de pandémie? Quelle lecture peut-on faire selon vous?
Je pense que le message d'espérance de la communion des saints doit continuer à percoler, si vous voulez. Il s'agit de continuer à dire nous vivons dans une extraordinaire communion des saints qui nous est offerte par le Seigneur, avec les saints qui nous précèdent dans la gloire de Dieu, avec tous ceux qui sont déjà passés par la mort. Eh bien, cette immense communion doit être une réalité, et elle est une réalité déjà sur Terre, avec tous ceux qui vivent ces situations extrêmement complexes sur la planète entière. Je pense que nous sommes presque contraints à vivre cette communion des saints avec l'Église entière, avec l'humanité entière dans ce temps de pandémie.
Vous dites dans votre message qu'il y a des tentations pour de nombreux fidèles d'être paralysés d'une certaine manière, paralysés par la peur, paralysés par les contraintes sanitaires. Quel message, quel appel faites-vous pour lever ces peurs, pour que ces chrétiens, ces fidèles ne restent pas prisonniers de ces peurs?
C'est un véritable combat spirituel que le Christ lui-même a mené et dans lequel il est sorti vainqueur. Donc ce que je dis aux gens, que vous ayez peur, mais moi aussi j'ai peur, et le Christ a aussi eu peur dans sa vie. Mais pour le dire de façon peut-être un petit peu originale, n'ayons pas peur de la peur, ne nous laissons pas paralyser. Nous pouvons aussi avoir notre dose de confiance à mettre en lui, à mettre dans les autres, à mettre en nous-mêmes.
Interrogé par Olivier Bonnel, Monseigneur Jean Coquerolles, évêque auxiliaire de Malines-Bruxelles en Belgique, était ce matin l'invité de Radio Vatican. Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera 13h, heure de Rome. D'ici là, n'oubliez pas notre site internet www.vaticannews.va ainsi que notre page Facebook et notre compte Twitter. Excellente journée à toutes et à tous.